Sous l'arbre à palabre avec Monico sur Marmite FM 88.4. L'arbre à palabre avec Monico sur Marmite FM 88.4.
Bonjour, c'est Monico sous son arbre à palabres sur Radio Marmite 88.4. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et la joie de recevoir Geneviève. Et je vais vous raconter déjà une petite histoire sur comment nous avons fait connaissance Geneviève et moi. C'est par le biais de Yaya, notre ami commun. Yaya lui a dit que si elle venait en France, il fallait qu'elle prenne contact avec Radio Marmite. Voilà ce qui est fait. Et la suite, c'est que Geneviève est très intéressée pour avoir des traductions de créole de Louisiane. Et il se trouve que je suis allée à la Louisiane récemment avec le groupe de cet homme. Et j'ai pu essayer de lui donner la possibilité d'avoir sa traduction. Donc tout ça, c'est pour démontrer qu'il y a des chaînes d'amitié qui se créent. Voilà. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter, les grandes lignes, dire qui tu es et pourquoi tu viens pour me parler de... En fait, tu as deux projets ensemble, donc on va les séparer. Hein? Donc on parlera celui du Sahel en premier et après celui qui a trait à la créolité. Voilà. Bonjour Geneviève, rebonjour.
Bonjour Monico. Donc j'ai été professeure d'éducation culturelle dans l'enseignement agricole depuis 1977 et j'ai toujours essayé de mettre l'accent sur les notions de solidarité à tout point de vue. On le verra à travers les deux projets qui touchent des publics différents. Et j'étais amenée, dans le cadre des journées de solidarité internationale, à faire de nombreuses animations dans des établissements scolaires autour de la réalité de la vie d'enfants sahéliens au nord du Burkina Faso, donc très proche du Mali et du Niger.
Autant vous dire que ça me parle, n'est-ce pas?
Voilà, l'idée étant non pas d'avoir une vision misérabiliste sur les conditions de vie de ces populations, mais plutôt de faire passer une idée de dignité.
Oui, et de toute la richesse
et aussi, et de valeur portée par les familles. On pense très souvent que quand on ne va pas à l'école, on n'apprend rien.
Oui, c'est faux.
Et ce que j'essaye de leur faire vivre, c'est la réalité du système éducatif traditionnel et aussi les aspirations des jeunes dans le cadre d'une société qui évolue là-bas aussi.
Et alors ça, c'était, situe-moi, à quel moment c'était ce travail, tu l'as fait, à
donc
quelle époque?
Donc ce travail, je l'ai commencé dès 77, que je suis allée dans cette région où je suis allée... 2 à 3 fois par an pendant plus de 25 ans.
Alors, en effet,
donc, où j'ai très vite appris la langue, puisque 90% de la population n'était pas alphabétisée en français. Donc, les contacts devaient passer par le truchement d'un interprète dont j'ai vite vu que...
Il traduisait pas obligatoirement.
Voilà. Et donc, pour avoir en particulier des contacts avec les femmes, parce que les hommes ont coutume d'émigrer vers les villes côtières pour... gagner de l'argent pour renvoyer aux familles pour la période de soudure. Donc, si je voulais communiquer avec les femmes, il fallait que je
maîtrise
la langue.
C'était quoi, le Haoussa?
Non, c'est le Tamashek.
Tamashek,
La langue des populations dites Touareg, mais qui est aussi parlée par des personnes qui ont été en relation avec eux. Et c'est le cas de cette communauté qui est Peul d'origine, mais dont seuls les anciens ont des souvenirs de la langue Peul. D'accord. En revanche, au niveau des coutumes, des pratiques, on retrouve des éléments très évidents de la culture Peul. Voilà. Donc, j'ai fait ces animations pendant longtemps. Et un jour, des jeunes collégiens m'ont dit « Madame, c'était trop bien !» parce que je leur passais des diapositives et je faisais ça sous forme de jeu de rôle. Je leur disais « Vous allez fermer les yeux, je vous propose de naître » dans un petit coin d'Afrique. Donc, ça n'est pas représentatif de la vie de tous les enfants d'Afrique. Il y en a qui habitent dans des grands immeubles, il y en a qui vont avec un chauffeur à l'école qui leur porte le cartable, mais quand même la majorité de la population en milieu rural vit dans d'autres conditions. Donc fermez les yeux, vous allez découvrir au rythme d'un bébé qui naît votre environnement, vos parents, votre famille, et puis peu à peu vous allez explorer votre environnement. Et je m'arrêtais en gros à l'âge des enfants auxquels je m'adressais. Mmh. Bon, je suis intervenue depuis la maternelle jusqu'à l'université du temps libre. Mmh. Et des collégiens m'ont dit « Madame, c'était trop bien, mais est-ce que vous avez un livre où vous écrivez tout ça ?» Et je leur ai dit « Ben, non, mais... »
On peut le faire.
Donc, à l'époque, aucun enfant n'était scolarisé, puisque la première école était à plus de 8 kilomètres, qu'il fallait traverser un fleuve en saison humide. Et ces populations étaient nomades, donc assez réticentes à tout ce qui est regroupement, contraintes,
etc. Comment tu faisais, justement,
etc.
Si c'était nomade, ça bougeait? Donc, alors, tu arrivais à avoir un suivi quand même?
Non, en fait, ils étaient déjà dans une phase transitoire, oui. C'est-à-dire que les hommes, les jeunes hommes accompagnés d'une ou deux jeunes femmes, transhumés avec les troupeaux, et transhument toujours avec les animaux en fin de saison sèche, de façon à trouver les premiers points d'eau au nord du Mali. Donc, ils peuvent faire entre 100 et 300 kilomètres si nécessaire. Et le reste de la famille qui, dans le temps, suivait, commençait déjà à rester sédentaire, mais sur injonction des autorités administratives aussi.
Ah, d'accord, oui.
Et aussi, ils ont perdu énormément d'animaux au moment des sécheresses de 84, donc, et de 74, ce qui fait que il n'y avait plus nécessité à ce que tout le monde suive.
Il n'y avait plus de troupeaux, autant de troupeaux.
Et aussi, il y a l'accès aux soins qui commençait à se faire via le dispensaire. Donc, peu à peu, et ces populations se sont mises à cultiver aussi aux abords du fleuve. Donc, il ne fallait pas laisser les champs non surveillés. Mmh. Et ce qui a fait que peu à peu...
Quand tu dis le fleuve, c'est
le fleuve. En fait, c'est un affluent intermittent du Niger.
Du Niger, oui.
Qui s'appelle le Béli. Et Béli, en peul, c'est la mare. Ce qui veut bien dire que c'est un fleuve intermittent qui se fractionne en trois ou quatre grandes mares. Et en fin de saison sèche, on peut n'avoir plus qu'une mare résiduelle pour toute la population sur un périmètre très, très large.
Donc, à partir de la réflexion des enfants, est-ce que tu as commencé à penser à...
Comme je commençais à maîtriser suffisamment la langue, en fait, pendant les heures les plus chaudes, je me mettais sous un arbre et puis j'écrivais des chapitres. Et le soir... Puisqu'on allait cultiver aussi, je réunissais les ados. Puisque
en fait, tu avais ton arbre à palabre, quoi.
Le livre, je réunissais les ados au campement et puis je leur expliquais en tamashek ce que j'avais écrit pour vérifier qu'il s'agissait bien de ressentis qui auraient été plausibles de la part d'eux-mêmes.
Que tu respectais bien ce qu'ils pensaient.
Et que ça n'était pas une vision de blanc, une vision d'étranger, une projection de mes propres sentiments. Donc, je leur soumettais à chaque fois mes écrits, qu'ils validaient.
Ça dénote un très grand respect de ta part.
En tout cas, c'était l'éthique que j'essayais de respecter. Et à la suite de ça, donc, ce petit roman qui essaye de rendre accessible la réalité et les aspirations de plusieurs préadolescents ou adolescents dans cette région, a été édité chez Syros, puis édité, repris par l'Harmattan Jeunesse. Voilà.
Très bien. Et ça, t'as mis combien de temps à le pondre, ce livre ?
Ça a été le premier jet. Je l'ai fait pendant toute cette saison où je suis restée là-bas. La première éditrice de chez Syros a voulu que je rajoute des chapitres. On voit bien que c'était un intérêt d'adulte sur le ressenti, puisque je parle aussi de la vie des fonctionnaires qui arrivent dans ces zones-là, qui s'y sentent complètement exilés, puisque ça ne correspond absolument pas ni à l'environnement paysager qu'ils ont connu, puisqu'ils sont majoritairement du Sud, et ni à la culture, puisqu'on est dans une zone essentiellement musulmane, et qu'arrivent de zones, c'est un peu moins le cas maintenant, mais qui étaient essentiellement animistes ou qui avaient été évangélisés par différentes missions. Donc, je tenais à parler du ressenti de ces fonctionnaires qui se retrouvent au bout de leur pays, mais pour eux, au bout de l'exil. Oui. Et donc, l'éditrice a tenu à ce que je développe cet aspect, bien que le roman avait comme prétention de s'adresser à des jeunes au départ. Donc, j'ai retravaillé le roman en conséquence.
Et est-ce que les enfants ont eu l'occasion de le voir fini ?
Les enfants de là-bas ?
Oui,
à chaque fois, moi, je rapporte... bien sûr, j'ai affecté à la bibliothèque villageoise et j'ai montré le livre, mais à l'époque, personne ne pouvait lire le français, au moins qu'ils voient l'objet livre, qu'ils voient les dessins.
Et il n'a pas pu être traduit...
Depuis, une école s'est créée et tous les enfants l'ont lu, mais les fonctionnaires l'ont lu aussi.
Les fonctionnaires l'ont lu.
Et ils ont été très sensibles et très étonnés que je puisse
avoir analysé
leur ressenti,
les choses,
puisque très souvent, c'est aussi une souffrance pour eux. Et je pense que c'est parfois une erreur que font pas mal d'intervenants. C'est qu'on focalise beaucoup sur la population. Parfois, il y a même une espèce de méfiance envers les fonctionnaires qui, c'est vrai, souvent se plaignent. C'est la premier échange qu'on a avec eux, ce sont surtout des doléances. Mais bon, il faut bien savoir que ce sont eux qui sont sur le terrain en permanence.
Oui.
Et que la vie n'est pas forcément facile pour eux. Et c'est aussi pour tenir compte d'eux que nous avions créé dans cette zone à 90% analphabète en français une bibliothèque villageoise.
Très bien.
Parce qu'à l'époque, les fonctionnaires qui étaient affectés dans le Nord, c'était des contestataires, mais souvent des personnes de très haut niveau intellectuel et qui vivaient... cet isolement des livres, de la culture à laquelle ils avaient pris goût, très douloureusement. Donc nous avions apporté...
Tu veux dire aussi les enseignants...
Oui, les enseignants, les personnels de santé, les préfets, etc. Et donc, le souci, ça a été parallèlement de prendre en compte la population. Donc dans cette bibliothèque villageoise du bout du monde, où aucun service public... ne venait avec plaisir. On s'est retrouvé avec des références comme René Dumont, comme des livres sur les grands résistants africains, des romans africains, mais aussi parallèlement, j'avais recherché tout ce qui existait en tamashek et en tifinagh, qui sont les caractères de la langue écrite du tamashek, et beaucoup de livres illustrés qui parlent de réalité des passeurs à travers le monde.
Et comment le choix s'est fait sur cette région de ta part ? Qu'est-ce qui a fait que tu as atterri là ?
Alors, au départ, il y a eu les grandes sécheresses dans toute la zone sahélienne.
Oui.
Le Mali et le Niger étaient très médiatisés, beaucoup moins le Burkina, puisque la zone sahélienne est plus restreinte. Oui. Et aussi qu'il était plus difficile d'y aller. À l'époque, ces pays n'étaient desservis que par Air France au tout début.
Oui.
Et c'est le point Afrique, qui s'appelait le point Mulhouse en tout premier, qui a créé les premiers vols en disant si on veut désenclaver l'Afrique, offrir des opportunités d'échange, il faut rendre déjà cette destination accessible. Ça a été un parti pris militant. Et donc, nous sommes arrivés dans cette zone, dans ce cadre-là. Et à l'époque, il y avait un bureau de suivi des ONG, des organisations non gouvernementales. Et quand on avait l'intention de se rendre utile, on les sollicitait et ils nous disaient « à tel endroit, il y a tel besoin ».
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on est arrivé là-bas.
En fait, tu étais au sein d'une
j'étais au sein d'un groupe de syndicalistes.
Oui.
Qui, lors d'un congrès avec des jeunes, avait demandé à ces jeunes ce qu'ils attendaient. On était déjà dans une phase de désyndicalisation très profonde. Oui. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils trouvent... qu'est-ce qu'ils reprochaient aux syndicats actuels ?
Oui.
C'était le début des sans-contrats.
Oui.
Donc, les deux dominantes, c'était que les jeunes disaient « Mais en fait, les syndicats s'occupent de gens qui ont déjà un travail. Donc, en fait, ils s'occupent de nantis. » Et nous attendrions d'eux qui s'occupent aussi des personnes qui restent sur le carreau, qui n'ont pas de travail.
Oui.
Donc c'était une de leurs exigences. Et la deuxième, c'était la notion de coopération internationale, de solidarité.
D'accord.
Et donc l'Institut Belleville, qui dépendait de la CFDT, a pris en compte ces demandes.
Mmh.
Et donc c'est dans le cadre de la coopération des métiers que nous sommes allés là-bas.
Très bien.
Donc il y a des infirmières qui ont suivi les infirmiers en brousse et... Moi, j'étais enseignante, donc j'ai essayé de...
Donc, il y avait la partie enseignant et la partie médicale. Vous travaillez.
Il y avait de tout. En fait, on ne travaillait pas puisqu'on ne restait pas sur le terrain, oui. Mais on était à l'écoute des besoins. Mmh. Donc, par exemple, il y a des cheminots qui ont travaillé avec les cheminots du Burkina avant que la ligne soit fermée à l'époque. Et moi, en tant qu'enseignante d'éducation culturelle et dans l'enseignement agricole, j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait proposer au niveau agricole et au niveau culturel.
D'accord.
Et c'est en faisant ce constat que ces fonctionnaires étaient dans un tel isolement, tellement frustrés, parfois amers, que je me suis dit, mais voilà, un projet qui me semble cohérent. Pour les parents, l'école, ça ne servait au mieux qu'à lire et à écrire une fiche de police, puisque c'est dans ce cadre-là qu'ils étaient sollicités. Donc, il s'agit aussi de montrer aux parents à quoi peut bien servir l'école.
Oui.
Et parallèlement à ces romans et ces essais qui étaient destinés à des personnes maîtrisant très bien le français, nous avions apporté tout ce que nous pouvions trouver, et il n'y avait pas grand-chose à l'époque, qui parle de la vie quotidienne de ces personnes et qui fasse que les parents interpellaient les quelques enfants qui allaient à l'école en leur disant « Mais qu'est-ce qu'ils écrivent là-dedans ?» Oui. Puisqu'ils voyaient des races de chameaux qu'ils n'avaient jamais vues, des chameaux, c'est-à-dire dromadaires pour eux, mais aussi des chameaux à deux bosses. Oui. Donc, à travers cette prise en compte de leur culture et de leur centre d'intérêt, l'idée était aussi de les motiver à laisser leurs enfants, à encourager leurs enfants à aller à l'école.
Et toi, tu restais sur place combien de temps?
À l'époque, j'étais enseignante, donc on ne restait que le temps des vacances scolaires. Après, je retournais, j'ai emmené des élèves.
Oui. Tu as fait des échanges.
J'ai emmené par la suite. Hein, donc l'idée, c'était aussi comment procurer des revenus d'appoint à cette population. Finalement, leur savoir-faire, c'était leur connaissance de l'environnement. Donc, l'idée a été de mettre en place des randonnées chamelières permettaient d'avoir une approche de la province. Au départ, pour moi, ça a été permettre aux personnes du groupe solidaire qui s'était créé, d'adultes, de mieux prendre en compte la réalité de la région. Puisqu'on s'était engagé à construire un dispensaire, on a après pris en charge la construction d'une école parce qu'elle était restée en chantier, faute de moyens. Mais l'idée, c'est d'avoir un autre point de vue que les seuls retours des fonctionnaires.
D'accord.
Qui nous disaient, les femmes sont feignantes, elles ne viennent pas aux réunions pour vacciner les enfants, les hommes ne veulent pas travailler, etc. Or, ces fonctionnaires partaient en vacances au moment de la saison des pluies. Donc, ils ne voyaient jamais les hommes au travail. Et les fameux hommes qui étaient, de leur point de vue, en train de se dorer la pilule à Abidjan, en fait, faisaient des travaux durs, voire humiliants pour certains, pour gagner de quoi permettre à la famille restée au Sahel de survivre.
Donc en fait, cette démarche, vous avez contribué à permettre que les uns et les autres puissent mieux se comprendre et puissent mieux
En partie, parce que je me souviens, les premiers temps, quand j'ai commencé à dormir en brousse dans les villages, le préfet envoyait, quand il ne me voyait pas revenir au bout de deux jours, trois jours, envoyer des personnes pour voir comment je survivais.
Oui.
Puisqu'il n'y avait pas à l'époque de pompe, il n'y avait rien. Donc je prenais l'eau du fleuve comme tout le monde que je filtrais. Et peu à peu, pour me rendre visite, les fonctionnaires ont commencé par curiosité. Mmh. Les fonctionnaires qui ne restaient jamais la nuit là-bas ont commencé à venir, parfois à dormir. Et l'idée, c'était de créer du lien.
Du lien.
Créer cette curiosité qui est le premier pas vers la compréhension.
Oui.
Voilà.
C'est quand même un comble que ce soit quelqu'un qui vienne de loin, qui contribue c'est formidable.
Oui, mais c'est souvent comme ça, même pour nous. Enfin, souvent, les personnes qui ont porté un regard sur le patrimoine de nos provinces n'étaient pas issues de cette province, pas forcément. Et parfois, il a fallu leur propre valorisation pour que les érudits locaux qui galéraient depuis des années à essayer de faire valoir ce patrimoine puissent enfin être entendus par les autorités locales. Donc, je pense que cette réalité, elle est valable partout.
Alors, là, maintenant, actuellement, C'en est où?
Alors, ce roman a été retenu dans des cadres de prix.
Je redis son titre, Une adolescence au Sahel.
Qui est publié chez l'Armatan Jeunesse. Voilà. Donc, ce roman avait été retenu aussi bien dans le cadre de l'édition Syros que l'Armatan par plusieurs prix jeunesse. Oui. Ce qui fait que ça m'a permis de rencontrer plusieurs classes.
D'accord.
Certaines ont tellement accroché qu'on a monté un véritable projet éducatif.
Oui.
Avec les enseignants. À Dieppe, par exemple, c'est un projet qui a duré plus de 2 trimestres, donc c'était quelque chose de consistant. Et à La Réunion, j'ai rencontré plusieurs classes, dont une qui a été très, très motivée, qui ne voulait pas qu'on se lâche. Je les ai rencontrées à un salon de littérature. Donc, je leur ai proposé de reprendre ce roman sous forme de pièce avec leurs enseignants.
D'accord.
Et pour cela, je leur ai passé, pour qu'ils puissent s'imprégner des réalités de ce milieu, je leur ai passé des diapositives avec
D'accord.
toujours le même principe.
Oui.
Et ils ont joué la pièce. Une de mes élèves très motivée, qui était pourtant beaucoup plus âgée, n'arrivant pas à motiver ses camarades lycéennes, est venue jouer avec ses sixièmes,
oui.
un rôle que j'ai créé pour elle. L'année d'après, elle a été suffisamment persuasive pour qu'on arrive à monter la pièce au lycée. Et les enfants, par ailleurs, ne voulaient toujours pas me lâcher. Donc, je leur ai proposé de réaliser un livre, de correspondre avec les jeunes qui commençaient, la première promotion qui commençait à arriver au collège, là-bas, d'échanger avec eux et d'échanger aussi avec des lycéens de la capitale, Ouagadougou, qui ont aussi adapté la pièce et qui l'ont jouée à Ouaga.
Très bien.
Et mon élève étant toujours très motivée, elle venait de la Grande Comore, je l'ai aidée à monter un projet Envie d'agir, un projet jeune, qui permet à un jeune porteur de projet, s'il a réussi à convaincre des financeurs privés, d'avoir une subvention doublée par Jeunesse et Sport.
Et ça, par exemple, si quelqu'un nous entend et quelqu'un a envie de continuer ce projet, est-ce qu'actuellement ça peut... C'est une école ou une bibliothèque ou, enfin, ou une association, on peut continuer ou...
C'est sûr que ce projet, je l'ai monté comme un projet pédagogique, donc c'est
ça,
sûr
oui,
qu'il
fait,
a toujours vocation à pouvoir servir de support, y compris à une interrogation sur les aspirations actuelles des jeunes, puisque j'ai dit que certains sont allés au collège, le premier jeune issu de ce village va passer son bac cette année. Et bien évidemment, l'ère des GSM, de Facebook, etc., est arrivée jusqu'à eux, ce qui fait qu'il y a des aspirations, mais aussi des frustrations. Il y a souvent les mêmes clivages qu'on peut constater chez nous entre les générations. Et ça peut être un sujet d'échange par mail, tout à fait intéressant, voire par Facebook.
Et aucun des adolescents ne t'a demandé... la possibilité un jour de venir en France
On n'en est pas là parce que le but... J'ai mené d'autres projets avec une troupe sénégalaise qui a tourné pendant 2 mois en France. Et c'est extrêmement dur pour ces jeunes, même s'ils ont entendu parler par les médias ou s'ils ont vu à la télé ce que le monde occidental peut offrir auquel ils n'ont pas accès. Le choc, une fois arrivé en France, peut être tout à fait cruel et déstabilisant. Donc, il faut être solide pour, et il faut avoir un projet autre que de venir regarder la vitrine de ce à quoi on n'a pas assez.
Et puis, ce n'est peut-être pas obligatoirement que des bonnes choses que l'on montre.
En plus, donc, j'ai eu d'expérience qui a été assez douloureuse de ce point de vue. Pour le moment, on en est à essayer de permettre à ces jeunes de progresser
dans leur propre pays.
Et puis, on verra par la suite. Mais nombre d'échanges, ça part d'une intention généreuse. Et puis, la notion de réciprocité, il faut la penser largement, avec tous les effets pervers. Parce que réciprocité, il faudrait qu'il y ait réciprocité en matière de pouvoir économique, ce qui n'existe pas. Donc, il faut être très précautionneux par rapport à ces notions.
Des fois, en voulant bien faire... Alors, il y a aussi le livre, qui est un superbe livre, D'une rive à l'autre, Regard croisé sur le Sahel, de la Réunion à l'Afrique. Alors, parle-moi de ce livre.
Justement, je parlais de l'évolution des aspirations des jeunes. J'ai voulu leur donner la parole de façon à ce qu'il n'y ait pas cette espèce de réticence que nous avons souvent, nous, en voyant ces paysages et ces modes de vie bibliques, à aborder la modernité. pour les jeunes, c'est légitime et c'est tout à fait naturel de voir les choses évoluer. Donc, le projet est né d'éditer un album avec énormément de photos où on retrouverait à la fois les ressentis des jeunes qui voient ces photos ici et un aspect plus documentaire qui a été réalisé en atelier d'écriture en Afrique avec ces jeunes collégiens. Ces jeunes qui arrivaient au niveau de collège et qui étaient les premiers à pouvoir s'exprimer de façon autonome en français.
En tout cas, je suis en train de le feuilleter et c'est dommage que vous ne puissiez pas voir les photos. C'est fait de façon très, très agréable et très simple, avec des petits textes à côté. Parfois, les enfants les accompagnent.
Donc, c'est un livre qui est assez touffu, puisqu'on a voulu donner la parole à chacun, ici et là-bas. Et donc, on trouve un certain nombre de photos qui ont été retenues, qui ont touché ou choqué ou interpellé nos jeunes ici, avec leurs textes, qui sont parfois des textes sensibles, parfois des textes polémiques. Et puis, des doubles pages qui sont avec un texte plus conséquent, qui correspondent à la partie documentaire sur la vie dans ce petit coin de Sahel. Donc, les droits d'auteur de ces albums sont reversés pour permettre la scolarisation dans le milieu secondaire des
D'accord.
jeunes de ce village.
C'est ça que je voulais savoir. Voilà.
Une chose quand même, c'est que vous avez dit, c'est dommage que vous ne voyez pas les images. Oui. Donc justement, nous avons conçu une exposition qui reprend les photos qui ont eu le plus de succès auprès des jeunes et des pavés de textes qui reprennent les commentaires de ces jeunes ici ou là-bas.
Oui. Et ça, on peut se les procurer.
Et cette exposition, elle a été conçue pour permettre une médiation. Elle pourrait être exposée, elle est déjà exposée dans des médiathèques. Elle peut donner lieu à des ateliers. Elle peut donner lieu à des projets pédagogiques. Elle est conçue pour pouvoir fonctionner sans médiation, mais bien sûr, c'est toujours plus intéressant quand il peut y avoir des rencontres.
Bien sûr.
Ben, le mieux, c'est de prendre contact avec Radio Marmite et puis qu'ils vous donneront les coordonnées.
Et toi, redis bien ton nom de famille.
Donc, je suis Geneviève Sekeldi, C-E-C-A-L-D-I, et le mieux, c'est de prendre contact avec Monico qui pourra vous donner les coordonnées mail et téléphoniques si vous êtes intéressé. Juste une chose, ce projet a été important. Ce livre, on parle d'images et de photos qui représentent les personnes. Au niveau éthique, il nous semblait impératif, avant de l'éditer, d'obtenir l'accord des familles.
Bien sûr, oui.
Donc, cet élève très motivé a monté ce projet Défi Jeune, qui lui a permis d'aller jouer la pièce au Sahel avec la troupe de Ouaga, qu'on a fait monter au Sahel. Pour qui le Sahel, c'était l'enfer, bien sûr. Hein. Et donc, on leur a permis de découvrir ce qu'était l'hospitalité sahélienne, ce qui les a beaucoup impressionnés. Et en même temps, on a présenté la maquette de l'album à toutes les familles. Donc, on envoie des photos dans l'album. Et les parents étant analphabètes en français ont chargé une famille baraboutique, dont un des hommes avait pu aller jusqu'en quatrième au collège, de lire l'ensemble du livre, ce qui a pris un certain temps. Tous les jours, il venait, on faisait le thé, les hommes, tout le monde se taisait et tout le monde suivait le mouvement de ses yeux. Et nous, on était assez inquiètes parce qu'on s'est dit, il faut qu'on soit cohérente, on n'éditera pas. Et au bout de 10 jours, il a pris une voix très solennelle et il a dit « Tout ce qui est dans cet album est entièrement vrai. »
Oui.
Il ne pouvait en être autrement puisque c'était les écrits des enfants.
Sûr.
Et une seule chose, une observation. À tel moment, vous dites « Quand la chamelle veut accoucher, elle s'éloigne en brousse, à l'écart des hommes. » Il me semble qu'on utilise que le terme « accoucher » ne convient qu'aux femmes. Alors, j'ai dit, oui, mais on essayait de respecter la parole des enfants. Donc, c'est pour ça qu'on avait gardé ce terme. Donc, du coup, on a rétabli quand la chamelle veut mettre bas, un vocabulaire que personne ne maîtrise là-bas, à part les techniciens d'élevage, mais pour respecter l'avis très avisé de ce marabout. J'ajoute juste une chose, c'est qu'on ne parle du Sahel actuellement qu'en termes de présence de terroristes, d'Al-Qaïda, etc. Et c'est pour ça qu'on a relancé cette exposition, parce qu'il nous semble important de parler des populations qui continuent à y vivre et des jeunes qui continuent à essayer de progresser et de trouver un avenir dans un contexte difficile. Et c'est aussi cette volonté solidaire qui nous fait reproposer ce projet.
Eh bien, je vais terminer en te remerciant Geneviève et en te disant, tu sais très bien mes origines, n'est-ce pas? Tout ce que tu as dit là, le Niger, le Sahel, le Burkina, tout ça me touche beaucoup. Et j'espère que ça débouchera sur un beau projet ici dans les Yvelines et que ça intéressera une médiathèque ou une école. Je suis là pour faire le lien si c'est nécessaire. Donc ça, c'est ton premier projet. Donc nous allons terminer cette émission et nous allons faire une deuxième émission pour l'autre projet. C'était Monico sur Radio Marmite 88.4.
Sous l'arbre à palabre. Avec Monico sur Marmite FM 88.4. L'arbre à palabre avec Monico sur Marmite FM 88.4.